Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. J'adresse un salut particulier aux auditeurs et aux auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission. Un forum d'affaires russo-africain s'est tenu à l'occasion du forum international de Yalta à Moscou. Un chef d'entreprise burkinabé fera le point sur les initiatives qui ont été proposées à l'occasion pour développer les échanges entre la péninsule et l'Afrique. Le conflit israélo-palestinien en est à son 19e jour. Un ex-colonel de l'armée française décryptera pour nous les dernières évolutions. Le congrès international agricole Asia Expo 2023 a démarré à Sotchi. Le conseiller du ministre malien de la pêche et de l'élevage nous présentera comment la Russie peut aider son pays à valoriser cette filière. La semaine de l'éducation des médias et à l'information, c'est en ce moment. Un journaliste indépendant nigérien a fait le point sur la situation avec les médias étrangers opérant en Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le forum international de Yalta s'est tenu à Moscou du 23 au 24 octobre. Créé en août 2015, il vise à mettre en œuvre des projets d'investissement en Crimée. Depuis son lancement, plus de 100 accords ont été signés. Des représentants de plus de 40 pays étaient présents cette année et un sous-forum d'affaires russo-africain était organisé pour l'occasion. Les éditions précédentes s'étaient déroulées à Yalta, mais il a été décidé de le transférer à Moscou afin de faciliter l'accès aux participants étrangers. L'ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères et chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov, a déclaré que la coopération interrégionale entre la Russie et les pays du continent africain était importante dans un contexte de pression occidentale sans précédent. Parmi les participants figurait Idrissa Ouédraogo, chef de la délégation burkinabé au Forum international de Yalta 2023 et directeur général de l'entreprise Burkina Meta. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, il a confié ses impressions. Écoutons-le tout de suite.
Quelles sont vos impressions générales de cet événement? Comment évaluez-vous son importance?
Mon impression est que si le Forum de Yalta n'existait pas, il fallait le créer. Depuis ce matin, nous avons suivi l'évolution des débats. Ce forum traite de questions très importantes pour l'avenir même du monde. Et nous savons que ces débats vont contribuer à changer l'ordre mondial qui a embrigadé pas mal de pays, qui garde pas mal de pays dans la pauvreté à cause du système de relations commerciales qu'il y a eu de par le passé. Et donc, ce forum sera l'occasion de prendre des décisions importantes qui vont permettre de trouver des solutions contre le système commercial qui est fait, non pas dans la manière du gagnant-gagnant, mais qui est fait au profit d'une partie et au détriment d'une autre partie. Et donc, il faut savoir que quand le commerce est fait dans ce sens-là, les règles du jeu sont faussées dès le départ. Et donc, nous sommes contents que ce cadre soit créé et qu'il va contribuer effectivement à ce que la Crimée et les pays africains puissent sceller des relations de partenariat où tout un chacun gagne.
Tout à fait. Vous venez de participer à une table ronde sur le développement des échanges commerciaux entre la Crimée et les pays africains. Et on a parlé de l'utilisation des infrastructures de la Crimée pour développer ce commerce, pour développer ces échanges. Comment évaluez-vous cette idée?
Il faut dire que l'idée est vraiment très pertinente au regard de la position de la Crimée par rapport à l'Afrique et surtout au regard de ce que la Crimée a comme opportunité à offrir à l'Afrique. Et maintenant, la question qui se pose, les difficultés qui sont évoquées et dont il faut trouver très rapidement la solution, c'est la question, bien sûr, du trafic. Comment est-ce que nous, Africains, aujourd'hui, on va faire pour surmonter les difficultés financières dues aux sanctions? Et comment est-ce que nous allons faire pour la fluidité du transport jusqu'à destination dans nos pays. Je crois que c'est ça les vraies difficultés. Mais l'intérêt aussi du forum, c'est cela, puisque ce sera une occasion quand même de baliser des solutions possibles afin que ces barrières-là puissent être levées et ce qui permettra à l'Afrique de pouvoir commercer librement et équitablement avec la Crimée et aussi qui permettra à la Crimée, en tout cas, de pouvoir écouler ses produits vers l'Afrique, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, importer ce que l'Afrique a de mieux que la Crimée puisse utiliser.
Selon la diplomatie russe, les engrais russes destinés à plusieurs pays africains, à l'Afrique, sont toujours bloqués dans des ports européens. Comment évaluez-vous l'influence des sanctions anti-russes sur les liens russo-africains ? Et est-ce qu'en général, selon vous, les sanctions sont légitimes ?
Bon, ces sanctions ne sont pas légitimes. Elles sont tout sauf légitimes. Et ces sanctions ont de lourdes conséquences aussi bien pour la Russie, mais surtout pour l'Afrique qui a énormément besoin de ces produits-là qui devaient transiter vers l'Afrique. Tenez-vous bien que ce que les Africains consomment, 45% de ce qu'ils consomment doit être importé. Et nous savons aussi l'importance du niveau de production au niveau de la Crimée et de la Russie. Alors, une fois qu'on a des difficultés pour écouler ces produits vers l'Afrique, il va sans dire que ça va créer des conséquences désagréables pour nos pays africains.
Parlons un petit peu de la géopolitique. On voit actuellement une nouvelle escalade de la crise au Proche-Orient. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette crise pour l'Afrique ?
Bon, avant d'apporter une réponse à votre question, il faut seulement dire le constat aujourd'hui de la politique mondiale. On voit une espèce d'injustice. La manière dont l'Occident se mobilise souvent pour accompagner des guerres injustes n'est pas normalement, l'Occident devrait être prompt à intervenir positivement. Moi, je qualifie d'intervention positive une intervention qui permet à chaque État d'être souverain. Ici, nous voyons que c'est un État qui est envahi, mais on constate malheureusement que c'est l'envahisseur qui est beaucoup plus soutenu. Maintenant, les conséquences en Afrique, c'est quoi ? Dans tous les cas, de nos jours, on parle d'un espace planétaire. C'est pour dire que avec la mondialisation et en tout cas le niveau des échanges élevé, une fois qu'un coin du monde est perturbé, il y a certainement des conséquences vers aussi les autres parties du monde. Voilà, donc tout naturellement, ce qui se passe dans ce coin du monde-là a des conséquences au niveau de l'Afrique.
Et parlant de la souveraineté, le président russe Vladimir Poutine, en parlant de cette crise au Proche-Orient, a dit qu'il est nécessaire de créer un État palestinien indépendant, ce qui est d'ailleurs décidé déjà par les Nations Unies, pour assurer la paix durable dans cette région. Comment voyez-vous la sortie de cette crise ?
Bon, pour nous, la sortie de cette crise, effectivement, c'est que toutes les parties, tous les pays reconnaissent la Palestine comme étant un État indépendant et de traiter effectivement la Palestine comme telle. Moi, je pense que c'est la meilleure issue au problème. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'est pas permis que, de façon sauvage, un pays, pour quelque raison que ce soit, veuille envahir un autre pays, veuille en tout cas s'accaparer de la souveraineté de notre pays.
C'était Idrissa Ouédraogo, chef de la délégation burkinabé au Forum international de Yalta 2023 et directeur général de l'entreprise Burkina Meta pour Spoutnik Afrique. Il a confié ses impressions sur le Forum de Yalta qui accueillait cette année une délégation d'affaires russo-africaine. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre depuis Bamako. Depuis 19 jours, le conflit israélo-palestinien connaît une nouvelle escalade. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, 80 personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza selon le Hamas. Au total, plus de 5700 Palestiniens ont perdu la vie suite au bombardement israélien effectué en représailles aux incursions du Hamas le 7 octobre. Côté israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées et plus de 5400 ont été blessées. 220 sont actuellement retenus en otage par le Hamas. Les diplomaties occidentales sont actuellement au travail afin de faire libérer leurs ressortissants actuellement en captivité. Dans ce conflit, les enfants ne sont pas épargnés. L'UNICEF a alerté dans un récent rapport que 2360 enfants étaient morts et 5364 avaient été blessés dans la bande de Gaza. Plus de 30 enfants israéliens ont été tués et des dizaines d'autres seraient toujours en captivité dans l'enclave, selon l'agence de l'ONU qui lutte pour l'amélioration et la promotion de la condition des enfants. Ces derniers jours, de nombreux chefs d'État se sont rendus en Israël. Le dernier en date est Emmanuel Macron qui a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant de se rendre en Cisjordanie à Ramallah pour rencontrer son homologue Mahmoud Abbas. Il s'est prononcé en faveur de la création d'un État palestinien mais a dénoncé le Hamas qu'il a qualifié de groupe terroriste qui ne défend pas la cause palestinienne. Il a appelé la coalition qui se bat contre l'État islamique à se joindre à la lutte contre le Hamas. Aux États-Unis, le New York Times a rapporté que l'administration Biden était préoccupée. Selon elle, Tel Aviv n'a pas de plan concret pour mener une opération terrestre à Gaza, dont elle a annoncé ces derniers jours son lancement imminent. En visite en Iran, Sergueï Lavrov a proposé des moyens de résoudre le conflit israélo-palestinien. Selon le chef de la diplomatie russe, la première étape passe par un cessez-le-feu, la résolution des questions humanitaires et la facilitation du départ des ressortissants étrangers du territoire de la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie russe a ensuite prôné pour la mise en place d'un mécanisme pour traiter la situation dans un contexte plus large, dont il est question depuis des décennies aux Nations Unies. Dans cette optique, le ministre russe des Affaires étrangères a demandé à son homologue turc, Hakan Fidan, de préciser l'idée d'Ankara concernant les pays garants pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Enfin, Sergueï Lavrov a dénoncé l'ingérence des États-Unis dans le conflit, susceptible d'aggraver la situation. Au micro de Spoutnik Afrique, Alain Corvez, ancien colonel de l'armée française, a décrypté les dernières évolutions du conflit israélo-palestinien. Écoutons-le tout de suite.
Le New York Times a rapporté que l'administration Biden était préoccupée par le fait qu'Israël n'ait pas de plan concret pour réussir son opération terrestre à Gaza. Pourquoi, selon vous, la conduite de cette opération est-elle compliquée ?
Alors, la conduite de cette opération est très compliquée parce que, en fait, ils ignorent un peu l'organisation militaire du Hamas dans Gaza, mais ils savent qu'elle est très puissante. Et notamment, s'ils l'ignorent, c'est parce que ce sont des souterrains qui ont été construits de longue date, qui sont très bien adaptés, très bien constitués, et qui, donc, permettent au Hamas de disposer ses armes comme elle veut. Et une entrée dans ces souterrains de l'armée israélienne serait tragique. Donc, Biden et les experts militaires qui conseillent Biden le savent, et je pense que les experts militaires israéliens le savent aussi, et c'est pour ça qu'ils hésitent. Moi, je pense même qu'ils n'attaqueront pas, du fait que ce serait un carnage, sans doute, pour le Hamas, mais également pour l'armée israélienne. Donc, il faut se méfier des déclarations des uns et des autres parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui sont de la propagande de guerre. Alors, en dehors de la propagande de guerre israélienne qui est souvent mensongère puisqu'ils ont fabriqué des fausses informations, et ça c'est la propagande de guerre classique. Mais là, quand les dirigeants prennent la parole pour faire des déclarations dans des moments de crise comme ça, il faut lire derrière les déclarations quelle est la réalité. Et je pense que les experts américains savent que une opération dans Gaza par l'armée israélienne serait très difficile. Et en fait, ils ne sont même pas capables d'évaluer militairement, stratégiquement, quel est le niveau des forces qu'ils rencontreraient en entrant dans Gaza. Donc, je pense que les États-Unis, qui soutiennent à fond Israël, ne souhaitent pas que l'armée israélienne se lance dans la conquête de Gaza. Je pense. Je n'ai pas d'informations, mais c'est mon opinion parce que cette opération serait catastrophique pour... je ne dis pas qu'il n'y arriverait pas, mais il le ferait au prix de pertes énormes. Et donc, ce ne serait pas une victoire.
Justement, vous parlez de pertes énormes. Au moment où nous enregistrons cette interview, on a Seymour Hersh, le célèbre journaliste américain, qui a expliqué qu'il aurait eu des informations par le biais d'un fonctionnaire américain bien informé, que les dirigeants israéliens envisageraient d'inonder le vaste réseau de tunnels du Hamas avant d'envoyer leurs troupes. Est-ce que vous croyez à cette éventualité ?
Je connais Seymour Hersh. Je sais que c'est un excellent journaliste et qu'il est très bien renseigné effectivement au département d'État comme au Pentagone. Donc son information est certainement justifiée, mais est certainement authentique. Mais je n'ai pas entendu parler d'inondation des souterrains, des installations souterraines du Hamas dans Gaza, mais pourquoi pas, ils sont capables de faire ça, mais je pense que le Hamas a prévu tout ça et que ça ne empêchera pas le Hamas de porter des coups terribles à l'armée israélienne qui sera automatiquement à pied. Ils ne peuvent pas entrer avec des chars et des avions. Donc, ce sera un combat au corps à corps et il y aura des pertes énormes. Alors, une inondation des souterrains, peut-être que c'est possible, j'en sais rien. Je n'ai pas eu cette information. Vous me la donnez juste maintenant et elle n'est pas écartée, effectivement. C'est Seymour Hersh est très bien renseigné, mais ce serait une aide, c'est sûr, pour l'armée israélienne d'inonder d'abord les canaux. Mais je ne sais pas si c'est faisable d'abord et puis si ce sera déterminant.
On va évoquer maintenant le sujet des otages. Parmi ces personnes qui sont retenues en captivité par le Hamas, on a des citoyens étrangers. Et les diplomaties occidentales, actuellement, sont à pied d'œuvre pour obtenir leur libération. Le Hamas affirme que l'armée israélienne doit arrêter les bombardements sur Gaza. Est-ce qu'un compromis est-il possible, selon vous ?
Et c'est difficile de répondre à votre question parce que on est dans l'irrationnel total. Bon, des deux côtés, mais surtout du côté israélien. Les Israéliens sont acculés dans une situation dont ils ne savent pas sortir. Et à mon avis, ils ne peuvent pas en sortir vainqueurs. Je pense que c'est le début de la fin du Premier ministre actuel et puis ensuite même du gouvernement qui suivra parce qu'ils sont dans une situation politiquement interne et puis externe vis-à-vis de l'opinion publique mondiale qui est de plus en plus détériorée. Donc la position israélienne est à mon avis irrationnelle très souvent et les bombardements actuels de Gaza sont d'une certaine manière irrationnels. Alors, ils détruisent pas le Hamas, la force militaire du Hamas, mais ils détruisent énormément d'endroits où il y a peut-être des gens du Hamas aussi, mais où il y a aussi beaucoup de civils, de femmes, d'enfants, et ça leur est reproché par le monde entier de plus en plus. D'ailleurs, ces bombardements de Gaza ont eu comme premier résultat d'unir la nation arabe. Les Arabes qui étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël ont été contraints par leur opinion publique à mettre un terme à ce rapprochement avec Israël. Donc, les décisions d'Israël sont souvent et de plus en plus irrationnelles, illogiques. Votre question exacte était ?
C'était, est-ce qu'un compromis est-il possible concernant les otages et par rapport à la position, si vous voulez, du Hamas qui, pour rendre ses otages, exige que l'armée israélienne doit arrêter de bombarder Gaza ?
Oui, ben je pense que il n'y a pas d'autre compromis possible que ce que propose Hamas, parce que ils n'arrêteront pas tant que les Israéliens continueront à bombarder comme ça les populations civiles. Sans doute bombardent-ils aussi ou des positions de Hamas qui ne pensent être des positions du Hamas, mais ils bombardent en même temps énormément de populations civiles. Et donc, je pense que le seul compromis possible, c'est qu'ils arrêtent de bombarder pour effectivement libérer des otages. Mais vous avez vu que le Hamas a déjà libéré des otages. Et je pense que le Hamas prend soin de ses otages. Hein. Il a libéré d'ailleurs deux otages de femmes, je crois, qui avaient besoin de soins intenses. Et ils l'ont fait alors que Israël n'avait rien donné en échange et même n'était pas prêt à cette transaction. Mais je pense que le seul compromis possible, c'est qu'ils arrêtent de bombarder. C'est radical, mais il n'y a pas d'autre compromis possible. Ils vont pas offrir quoi que ce soit des otages libérés ou autres, à Israël ou à l'opinion internationale. S'il continue à recevoir les bombes et Israël.
Emmanuel Macron est arrivé hier en Israël en visite d'État. Il prône pour la création d'un État palestinien, mais il a aussi appelé la coalition qui lutte contre l'État islamique à lutter contre le Hamas. Qu'est-ce que vous pensez de cette position du président français ?
Bah écoutez, je pense que c'est triste. Bon, qu'il est quand même... fait allusion à un État palestinien, c'est une bonne chose, c'est positif, mais il a pas montré énormément de compassion pour les souffrances qu'endurent actuellement les populations civiles de Gaza. Néanmoins, le fait d'exiger, de dire qu'il faut un État palestinien, c'est une bonne chose. Mais vouloir persister à considérer que le Hamas est un mouvement terroriste, c'est une erreur. Le mouvement Hamas représente la résistance des Palestiniens aux oppressions qui durent depuis 75 ans d'ailleurs, avec des moments plus ou moins intenses, exercés par Israël. Donc Hamas, aujourd'hui, a écarté d'ailleurs le Fatah. Mahmoud Abbas n'est plus qu'une marionnette entre les mains des Israéliens et des Américains et ne représente plus la véritable résistance palestinienne. Donc le président français devrait comprendre que désormais, après ce qui s'est passé depuis maintenant 10 jours, la vraie résistance palestinienne, c'est pas le Fatah de Mahmoud Abbas, mais c'est le Hamas et le djihad islamique. Quel regard qu'on porte sur ça, il faut arrêter de dire que ce sont des terroristes. Vous savez, pendant la guerre, les Allemands disaient que les résistants étaient des terroristes. Bon, et De Gaulle a fort bien expliqué dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967 à l'Élysée. Il a très bien expliqué, en reprenant les termes de la résistance française pendant la guerre, que Israël s'était emparé des territoires qu'il voulait prendre, et désormais sur ces territoires, il organise l'occupation qui ne peut aller sans oppression, changement de population, et se développe alors contre lui une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Donc, vous voyez, ce terme de terrorisme, il faut bien regarder l'étymologie des mots. Et aujourd'hui, Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Daesh, ISIS sont des mouvements terroristes. Mais Hamas n'est pas un mouvement terroriste, c'est le mouvement de résistance palestinienne. Et il n'y a pas d'autre résistance palestinienne que le djihad islamique et... Bon, il y a aussi le FLP, il y a d'autres, mais Hamas est la tête de file de la résistance palestinienne. Donc, dire qu'on va combattre le terrorisme, oui, mais le terrorisme, il est pas là. Le terrorisme, il est du côté israélien qui bombarde des civils, et puis il est du côté de Daesh et ISIS, qui sont d'ailleurs des créations des services secrets américains et israéliens.
On va passer à une dernière question. Les tensions ne se limitent pas à la bande de Gaza. Tsahal, l'armée israélienne pour nos auditeurs, mène également des opérations à la frontière avec le Liban et frappe des sites en Syrie. Est-ce qu'un risque d'extension du conflit est-il à craindre selon vous ?
Oui, il y a un risque d'extension, mais moi je ne le pense pas parce que je connais les acteurs et je remarque que le Hezbollah a fait preuve de sa force, mais il est beaucoup plus puissant que les actions qu'il a menées jusqu'à présent. Il a montré la précision de ses tirs et ses possibilités, mais il a des possibilités bien plus vastes, militaires, j'entends, bien plus vastes que ça, et les Israéliens le savent. Donc, je ne vais pas dire que ce sont des accrochages anodins, parce qu'il y a quand même des morts à chaque fois, mais le Hezbollah n'a pas déployé sa puissance militaire. Ce sont juste des actions ponctuelles pour créer un front supplémentaire à Israël et en soutien à la résistance palestinienne à Gaza. Mais ça n'est pas la guerre que le Hezbollah est capable de mener. Et Israël, les experts israéliens qui étudient chaque mot du Saïd Hassan Nasrallah et tout ce qu'ils peuvent savoir sur l'organisation militaire du Hezbollah savent très bien que ce qui se passe en ce moment, ce sont des accrochages sporadiques. Il y a quand même, comme je l'ai dit, il y a des morts, il y a des actions qui sont assez violentes, mais des rétorsions de la part d'Israël qui bombarde au phosphore d'ailleurs le sud Liban. Moi je connais bien le sud Liban, j'y étais dans les forces de l'ONU et je connais tous les villages qui sont cités tous les jours là dans les bombardements et j'ai vu des vidéos où ils sont bombardés au phosphore donc ça entraîne des dégâts beaucoup plus larges. Et d'ailleurs je crois que s'ils utilisent des obus au phosphore, c'est peut-être parce qu'ils sont à court d'autres munitions. Car il y a eu des informations qui disent que l'armée israélienne est à court d'obus d'artillerie. Et donc, de même qu'en Ukraine, les Ukrainiens, c'est le même cas. Je pense qu'il y a une possibilité de guerre mondiale, mais je m'exprime mal. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de guerre mondiale. Il y a une possibilité d'extension. Mais je ne crois pas qu'il y aura cette extension parce que les États-Unis, comme Israël, savent très bien que l'Iran et la Russie sont en face et ne laisseront pas Israël et les États-Unis gagner cet affrontement. Donc, il y aura de la retenue, même si on déploie des porte-avions, plusieurs groupes aéronavals en Méditerranée. Ça, c'est aussi le bluff américain pour dire je suis la plus grande puissance du monde, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Mais ils savent très bien que non, ils ne sont plus capables de diriger le monde et que aujourd'hui, c'est la Chine, la Russie et l'Iran qui mènent les affaires, qui sont bien plus de moyens militaires et diplomatiques et stratégiques de diriger le monde que ne l'ont maintenant le camp occidental avec les États-Unis. Et donc, sur le conflit au Moyen-Orient, il y a sans doute un risque d'extension, mais je ne crois pas que ça ira très loin. Il peut y avoir des affrontements encore plus violents au nord avec le Hezbollah, mais vous savez très bien que le Hezbollah est capable de bombarder Haïfa ou Dimona au sud. Donc, je ne crois pas qu'on ira jusque-là parce que, bien que, comme vous le disiez initialement, les Israéliens soient irrationnels dans certaines de leurs décisions, il y a quand même des gens qui sont plus rationnels et on entend d'ailleurs les dissensions au sein du gouvernement israélien. Et donc, je pense que les plus raisonnables vont l'emporter. Sachant que c'est dans l'intérêt même d'Israël qu'il faut rester raisonnable.
C'était Alain Corvez, ex-colonel de l'armée française pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les dernières évolutions du conflit israélo-palestinien qui connaît une nouvelle escalade depuis le 7 octobre.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Sotchi accueille du 25 au 27 octobre le Congrès international de l'agriculture Asia Expo. Cet événement est l'un des plus grands lieux de coopération internationale dans le domaine du complexe agro-industriel. Plus de 10 000 invités du monde entier participent au forum, dont des représentants de grandes entreprises de Russie, d'Asie, d'Afrique, des pays de la CEI et du Moyen-Orient. Des tables rondes et des plateformes de discussion sont organisées pour discuter du développement des agro-industries dans le contexte d'une réorientation globale des marchés. Depuis Sotchi, mon collègue Kamal Ouadj de l'émission L'Afrique en marche s'est entretenu avec Adama Camara, conseiller technique du ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quelle est la situation de l'agriculture en général, mais en particulier de l'élevage et de la pêche au Mali?
Comme vous l'avez dit, le Mali est un pays traditionnellement d'élevage. Nous avons avec beaucoup de potentialités. Mais le contexte a fondamentalement changé ces dernières années. Le basculement de la situation sécuritaire, les changements climatiques impactent négativement, en tout cas, sur la production animale. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est comment répondre aux besoins de consommation croissants de nos populations.
C'est-à-dire en viande?
En viande, en lait, en produits laitiers.
D'accord, donc la gamme, oui, c'est la viande rouge, la viande blanche,
oui,
et les produits laitiers.
Absolument. Donc notre ambition, c'est avoir un élevage compétitif qui repose essentiellement sur des systèmes de production intensifiés et autour desquels s'organisent des organisations professionnelles, autonomes, représentatives et qui répondent effectivement aux besoins des éleveurs et des éleveurs de façon générale. Comme je vous l'ai dit, l'exportation des animaux sur pied constitue aujourd'hui la troisième source, le troisième produit d'exportation de revenus, je veux dire, pour les populations.
D'accord.
Après l'or et le coton.
D'accord. Donc c'est l'élevage,
oui,
comme l'élevage bovin, mm-hmm, est essentiellement la troisième source de devises fortes.
De devises fortes pour le Mali.
Pour le Mali.
C'est absolument
excellent, ça.
C'est ça. Mais ce commerce de bétail.
Donc vous n'êtes pas comme tous les pays c'est un pays qui vivant, le Mali, contrairement à ce qu'on peut faire penser. Vous n'êtes pas comme ceux qui comptent uniquement sur le pétrole ou sur l'or ou sur le gaz, mais c'est un pays
nous
qui.
Nous avons effectivement une filière, en tout cas compétitive, c'est un peu ça notre ambition. Mais il y a beaucoup de potentialités au Mali.
D'accord. Prenons la question de l'élevage,
oui,
l'élevage bovin et de la volaille. Est-ce que la quantité qui est produite suffit pour nourrir le pays et à des prix accessibles aux Maliens?
Comme je l'ai dit, nous avons un grand potentiel de production. Le Mali est un grand pays d'élevage avec beaucoup de potentialités. Mais comment valoriser effectivement ces potentiels?
Voilà.
C'est un peu ça la question fondamentale. En tout cas, l'un des défis importants au niveau de l'élevage et de la pêche. Nous avons un potentiel de production qui est là, mais il s'agit maintenant de voir comment le valoriser.
D'accord.
En installant effectivement des industries qui répondent aux normes internationales et de faire en sorte que, en tout cas, le choix des consommateurs en tout cas, soit respecté, en tout cas en matière de qualité, en tout cas des produits offerts à la consommation. Voilà un peu l'objectif sur lequel en tout cas, on veut aller.
Mm-hmm.
Vous avez un potentiel de production qui est là. Il faut prendre la disposition de faire en sorte que ce potentiel-là soit valorisé.
Monsieur le conseiller, oui, quand vous dites le valoriser, qu'est-ce que vous spécifiez exactement par ça?
Quand on prend la filière viande rouge,
d'accord,
nous avons l'un des cheptels les plus importants au niveau de la sous-région.
Oui. Je crois que c'est 120 millions de têtes.
Absolument 12 millions de têtes. 12 millions de têtes de bovins. 12 millions de têtes de bovins. Mm-hmm. 35 millions de têtes de bovins caprins. Et puis, c'est-à-dire de moutons et de chèvres. Tout ce potentiel qui est là, comme je l'ai dit au départ, le commerce se fait essentiellement sur pied. Se fait sur pied.
D'accord.
Et cela constitue et fondamentalement un manque à gagner pour l'économie nationale.
Oui.
Notre objectif, au lieu d'exporter continuellement ce cheptel-là sur pied, c'est d'installer des unités de transformation qui répondent aux normes internationales. De façon à inverser cette tendance, c'est-à-dire au lieu d'exporter en tout cas les animaux sur pied, qu'on puisse en tout cas exporter beaucoup plus de viande en lieu et place en tout cas des animaux sur pied. Mais nous avons besoin pour cela qu'on ait des unités industrielles en tout cas aux normes internationales, que nous ayons quand même la capacité de certifier en matière de certification de ces produits. Cela va supposer aussi un personnel compétent, donc un renforcement des capacités et des usines de transformation en tout cas qui répondent aux normes internationales. Quand on prend aussi le lait, vous avez en certaines périodes de l'année une quantité suffisante de lait qui est là, qui n'est pas transformé. Donc nous avons besoin également d'installer en tout cas des unités de transformation de lait pour valoriser effectivement ce potentiel de lait qui est là.
D'accord.
Voilà un peu ce que j'entends.
Donc par exemple, si j'imagine bien, vous serez très intéressé de trouver des partenaires ici en Russie vont vous aider à installer des usines pour transformer la viande, par exemple, dans d'autres produits, ou découper, et enfin avoir avec une qualité telle que pratiquée partout pour que vous puissiez exporter avec une meilleure plus-value pour le pays.
Absolument. Donc quand on prend effectivement le domaine de l'alimentation des animaux.
Oui.
J'ai cru comprendre, en tout cas dans les interventions que j'ai suivies, que la Fédération de la Russie a développé en tout cas une filière de production animale qui est aujourd'hui très compétitive. Donc il est important pour nous de venir nous inspirer en tout cas de cette expertise russe, de façon à nous permettre nous aussi de valoriser ce potentiel de production qui est là, notamment dans le domaine de la génétique animale, dans le domaine de la production et de la distribution en tout cas des intrants agricoles avec grand A, élevage et pêche, également dans le domaine du renforcement des capacités. Donc nous avons besoin de toutes ces expertises en tout cas russes pour pouvoir faire en sorte que nous ayons au Mali un élevage compétitif qui réponde en tout cas aux normes de consommation en tout cas des populations. Le partenariat, il faut le développer. Nous avons besoin aujourd'hui, si nous venons en Russie, c'est de nouer ce genre de partenariat avec les opérateurs privés en tout cas de la Russie, et aussi pour diversifier en tout cas notre partenariat. Vous avez parlé du domaine de la conservation conservation des produits animaux, y compris aussi de la pêche. Vous avez parlé des problèmes, tout ce qui est logistique en tout cas pour accompagner nos producteurs là. Ça, ce sont des maillons très importants sur lesquels on peut travailler éventuellement avec la partie russe.
C'était Adama Camara, conseiller du ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali pour Spoutnik Afrique. En marge du Congrès international de l'agriculture Asia Expo, il a fait le point sur la situation de l'élevage et de la pêche dans son pays et présenté comment la Russie peut aider le Mali à valoriser son potentiel dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, c'est du 24 au 31 octobre. C'est à l'initiative de l'UNESCO que celle-ci est célébrée. Cette année, elle se concentre sur les espaces numériques. Elle intervient dans un contexte d'augmentation spectaculaire de l'accès à l'information dans le monde. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Lamine Souleymane, journaliste indépendant nigérien, nous a présenté l'importance de cette célébration et la situation avec les médias en Afrique. Écoutons-le tout de suite.
On est maintenant dans la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Pour vous, qu'est-ce qu'un média fiable ?
En tant que professionnel d'abord des médias, pour moi, un média fiable, c'est un média qui traite l'information avec moins de partialité, un média qui s'en tient aux règles d'éthique et de déontologie du journalisme, un média qui donne des informations vérifiées et utiles et qui sont de nature à éclairer les lanternes du public. C'est ça pour moi un média fiable.
Les médias occidentaux sont largement présents dans le paysage médiatique africain. Croyez-vous qu'ils sont objectifs dans leur couverture de l'actualité africaine ? Ou voyez-vous une certaine partialité à l'égard du continent ? Et quelles pourraient être des solutions pour sortir de cette situation de domination des médias occidentaux en Afrique ?
Alors, parlant des médias occidentaux, de l'influence qu'ils ont sur les populations africaines et même sur les médias locaux indépendants de façon générale, et ce que je peux dire, ces médias, de plus en plus ces dernières années, surtout les médias européens, c'est des médias qui dont le traitement de l'information souvent indique qu'ils sont, ils contribuent à l'ingérence dans les affaires des pays du Sud, des pays africains. C'est des médias qui sont considérés de par le traitement de l'information qui font comme les bras armés de l'impérialisme occidental, parce qu'ils accompagnent en réalité la politique étrangère de ces pays-là en travers où on sait qu'elle est faite d'ingérence et de partialité dans le traitement des affaires, dans l'appréciation de la gouvernance en Afrique. Quand vous prenez un média comme RFI, France 24, et c'est d'eux qu'il s'agit, hein, il y a d'autres médias britanniques, des médias russes, des médias américains, on ne sent pas trop une certaine ingérence à travers le traitement de l'information dans les affaires des États africains. Mais ces deux médias, pourquoi aujourd'hui, dès qu'on parle de l'ingérence des médias occidentaux, ça vient tout de suite à l'esprit, l'image des médias qui revient, c'est RFI et France 24. Parce que c'est des médias, leurs informations qu'ils traitent à travers leurs correspondants locaux et montrent qu'ils sont plus dans la partialité que dans l'impartialité, que dans la construction des opinions avec, de manière objective. Ce sont des médias qui prennent fait et cause tout suite pour le gouvernant, lorsque les gouvernants font le jeu naturellement des puissances occidentales. Vous prenez les contextes africains, sahéliens et nigériens que je connais, ces médias n'ont jamais dit et indexé les autorités de l'époque, qu'il s'agisse du Mali ou du Burkina ou du Niger, quand ces autorités commettent des travers, quand ces autorités violent la liberté d'expression des opposants ou quand ces autorités arrêtent même des journalistes, souvent ils ne donnent pas de la voix, ils font un traitement biaisé, un traitement laconique. Mais lorsque ces médias, vous les entendez défendre le peuple, défendre les journalistes ou défendre la démocratie, c'est que quand ils font des critiques vis-à-vis des régimes de gouvernance, c'est que rassurez-vous que ces gouvernants-là ne sont pas en odeur de sainteté avec leur pays, les dirigeants de leur pays. C'est le cas des médias français aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que dans beaucoup de pays, vous avez vu tout de suite, ils sont devenus comme des parias. Les gens ne voulaient pas avoir affaire avec eux, à ces médias occidentaux. Et du coup, dans le contexte sahélien, les militaires qui sont venus au pouvoir, du Mali jusqu'au Niger, en passant par le Burkina, l'option qu'ils avaient choisie, vite, c'est de suspendre. Une manière de leur dire que vos traitements d'information ne nous intéressent pas. Pourquoi on n'a pas fermé un média comme BBC ? Pourquoi d'autres médias comme les médias VOA n'ont pas dérangé les trucs, ils n'ont pas fait l'objet de fermeture ? Je ne dis pas que les journalistes aussi ne commettent pas des impairs dans le traitement de l'information, mais on sent moins et moins qu'ils ne rentrent pas on ne les accuse pas d'être partiaux des médias qui traitent l'information avec moins d'éthique, contrairement aux médias français, France 24 et RFI. Voilà ce que je peux dire à l'égard de ces médias. Mais ce que maintenant les pays qui sont en sont victimes, comme les pays d'Israël doivent faire, c'est d'œuvrer pour le développement des médias locaux indépendants, des médias, ça veut dire le développement des médias, les accompagner, renforcer leur capacité pour surtout qu'ils arrivent à faire face aux défis du contexte que nous impose la géopolitique des médias. Aujourd'hui, quand vous prenez des médias locaux, ils n'ont pas les mêmes capacités dans aucun pays d'Israël qu'un média comme RFI ou France 24. Il faut que donc il appartient aujourd'hui aux nouvelles autorités de penser, de trouver une alternative, non seulement qui puisse permettre à ces médias locaux de devenir de véritables médias qui peuvent avoir de l'influence eux aussi à l'extérieur, qui peuvent avoir de l'influence sur les populations locales, mais surtout où les journalistes sont bien formés, bien aguerris pour traiter l'information, pour comprendre la géopolitique mondiale, pour analyser certaines questions avec leurs propres experts médias qu'ils ont à leur niveau, sans recourir à des chaînes comme RFI ou France 24 ou des journaux européens pour comprendre certaines situations du Sahel ou de l'Afrique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a très peu de journalistes qui ont cette capacité d'analyser l'information qui leur parvient de l'Occident ou pour avoir leur propre opinion et sur la base de ça, avoir des traitements assez critiques de la politique internationale. Il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas au Sahel. Les quelques experts qui sont là, c'est des consultants qui sont dans leur cabinet, qui travaillent pour eux-mêmes et qui sont même souvent mis en contribution par les médias occidentaux pour analyser certaines questions d'actualité au Sahel. L'opportunité qu'ils n'accordent pas à leurs médias ici, dans le pays du Sahel. Donc, c'est un problème à deux niveaux. Si les autorités, les nouvelles autorités, veulent que les médias puissent servir de rempart contre, pour atténuer l'influence des médias étrangers, des médias occidentaux sur la population, il faut qu'ils arrivent à avoir un contrepoids. Et la meilleure façon d'avoir ce contrepoids, c'est de renforcer les capacités d'abord des médias locaux, mais des journalistes aussi pour les former, pour leur donner la possibilité de lire avec un œil critique l'actualité au plan international. Voilà ce que j'ai à dire à votre question.
Selon une étude, l'intérêt pour l'actualité, en général, a chuté dans le monde, passant de 63% en 2017 à 51% en 2022. Selon vous, pourquoi les médias font face à cette crise de confiance et d'intérêt de la part des lecteurs et des auditeurs ces dernières années, si vous êtes d'accord, bien sûr, avec ce constat?
Oui, je suis d'accord avec ce constat que les médias ont perdu d'intérêt, c'est-à-dire au plan local. Moi, je dirais même que ces statistiques, on doit les revoir parce qu'un pays comme le Niger, j'ai trouvé que... dans beaucoup de secteurs, les gens accordent très peu d'importance à l'information, aux médias. Vraiment, il y a très peu d'auditeurs qui suivent ce qui se passe. Les gens préfèrent aller sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour dire que c'est l'influence des nouveaux médias, des réseaux sociaux, qui a amené cette situation où les médias ont perdu du terrain, il y a une crise de confiance. Il y a la question de désinformation qui est là. Il y a la question d'accessibilité et de l'information. Et puis, il y a l'impact aussi de l'Internet. Parce que n'importe qui aujourd'hui est devenu un producteur de contenu. Quand je dis n'importe qui, c'est ceux qui disposent de téléphones portables. Et une information, elle n'est pas traitée. Et quelqu'un a son téléphone portable, il se met subitement à partager cette information, alors que les médias classiques, il prend le temps de vérifier l'information, de vérifier son utilité. Donc, il y a ce problème-là. Et les populations qui perdent d'impatience d'avoir une information à chaque fois, ils ont ça sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela qu'il y a ce manque d'intérêt pour les médias classiques aujourd'hui et pour les journaux ou qui n'ont plus, ils sont dans la mévente, qui n'arrivent pas à vendre. Un pays comme le Niger, aujourd'hui, il y a pratiquement tous les journaux ont disparu. c'est sur les réseaux sociaux. Et les télévisions, les gens accordent, sont devant le petit écran, c'est quelques intellectuels qui veulent s'informer sur ce qui s'est passé, ils ne sont pas nombreux. Et les autres qui passent leur temps devant les télé, c'est pour suivre le divertissement, des émissions qui passent pas de, qui traitent de divertissement, mais rarement sous l'information comme ce qui se faisait avant. Ça, ce n'est pas en vérité une crise de confiance, mais c'est un manque d'intérêt selon moi. La crise de confiance, elle est venue après et on la sent plus du côté des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ont pollué aujourd'hui l'environnement médiatique qui sont où les journalistes sont eux-mêmes victimes de la désinformation. Mmh. Et à tort ou à raison, on considère que quand une information elle est fausse, on ne voit pas, on ne cherche pas à comprendre que c'est les réseaux sociaux, les faussaires de l'information qui en sont à l'origine de cette désinformation. Mais on indexe tous les médias classiques. Et ça, c'est parce qu'il y a un problème d'éducation aux médias. Les gens n'ont pas compris c'est quoi le véritable rôle d'un média, c'est quoi le véritable rôle d'internautes, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas ce que nous appelons une littératie médiatique. Il faut qu'il y ait cet effort d'amener les gens à analyser les médias, à comprendre qu'est-ce que les chacun font, à les sensibiliser au maximum pour qu'ils comprennent ce qu'ils arrivent à distinguer la vraie information de la fausse information et qui en sont les auteurs. En ce moment, quand on fait cet effort-là, et c'est là où je pense que des journées, des semaines comme qui traitent de l'éducation aux médias et à la sensibilisation à l'information, doivent traiter de ces contenus-là pour éduquer les populations, pour les amener à comprendre qu'ils n'ont pas le droit de se fier aux réseaux, aux nouveaux médias, à l'Internet, ne doit pas être une source crédible d'information, mais c'est plutôt les médias classiques où des gens sont formés, des gens prennent leur temps pour traiter l'information en respectant les règles d'éthique. C'est là où on peut puiser la bonne information. Voilà un peu ma réponse par rapport à cette question.
Vous avez en fait répondu même à la question suivante sur une certaine concurrence entre les médias classiques et les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Et vous personnellement, comment suivez-vous les médias?
Oui, moi, le média aujourd'hui, je regarde à la fois en tant que journaliste d'abord, mais surtout en tant qu'expert sur des questions de sécurité, analyste des questions politiques. Je regarde tous les médias. Je prends mon temps d'abord de regarder ce que les médias locaux font aujourd'hui, parce que pour moi, c'est la seule source d'information crédible, plus ou moins crédible. Je regarde les réseaux sociaux, je fais une sorte de fact-checking à mon niveau pour essayer et de regarder, de checker et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une opportunité aussi, c'est de regarder, de comparer, de conforter et confronter les informations selon les supports et les formats auxquels nous avons accès aujourd'hui. Il y a une diversité de supports aujourd'hui, une diversité de formats et ça me permet aujourd'hui d'avoir une large vue de tout ce qui s'est dit par rapport à des sujets d'actualité et de dégager les tendances, parce que c'est un peu ça aussi, puisque c'est la diversité doit nous profiter en tant qu'experts médias. Je trouve qu'ils ont leur utilité, les réseaux sociaux, même ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, même si c'est de la désinformation, je ne les prends pas comme pour argent comptant, comme information, mais je le prends, ça peut m'aider dans certaines analyses pour comprendre pourquoi il y a de la désinformation dans tel aspect, pourquoi il n'y a pas eu dans tel autre aspect, ainsi de suite. Donc les médias, pour moi, à mes mots, c'est vraiment des sources qui nous aident à lire l'actualité au quotidien, à comprendre les opinions que les uns et les autres se font sur divers sujets, et naturellement à dégager sa propre opinion.
Merci beaucoup. Vous avez déjà touché ce sujet, mais quand même, encore une fois, les autorités de trois pays africains, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont suspendu plusieurs médias français les accusant d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Comment vous, personnellement, vous voyez les raisons de cette suspension?
Oui, les raisons de cette suspension, aujourd'hui, je crois que, selon quoi qu'on ait pu dire, ce ne sont pas des raisons qui ne doivent rester laisser les autorités, les nouvelles autorités militaires indifférentes. C'est comme si elles ont perçu ces médias à travers leur traitement d'information comme des médias qui sont qui ne facilitent pas la tâche. Quand ils ne facilitent pas la tâche, c'est quoi ici? C'est comme si c'est des médias qui sont manipulés pour juste diffuser des informations qui sont de nature à troubler l'ordre public dans leur pays. Quand vous prenez un média, toujours au Mali, vous avez vu l'effort des médias occidentaux dans la déstabilisation du Nord, où ils ont passé des informations selon lesquelles l'agent militaire commet des violations, des graves violations des droits de l'homme. Elle commet même à un certain moment, certains médias ont même parlé d'un début de génocide. Alors que ce ne sont pas des informations dans le contexte sahélien de venir les diffuser comme ça sur la base de quelques informations qui ne sont pas vérifiées malheureusement. Et malheureusement, les correspondants de ces médias-là qui sont dans nos pays au Sahel, c'est des médias qui travaillent sous coupe réglée, tout le monde a compris cela. C'est des médias qui ne cherchent pas à vérifier ce qu'ils reçoivent depuis leur siège de leurs médias à Paris, mais qui cherchent coûte que coûte à confirmer ce qu'ils ont reçu, même si c'est des informations qui sont sensibles. Ce sont des médias qui ne font pas un minimum de traitement sensible de l'information pour éviter la pour renforcer la cohésion sociale, pour plaider en faveur de la promotion de la paix et éviter que la situation ne dégénère. Donc c'est normal que les autorités qui prennent le pouvoir qui décident de les suspendre. Mais moi, à mon humble avis, peut-être que c'est la déformation en tant que journaliste et défenseur de la liberté de la presse qui m'amène à le dire, je trouve que si c'est moi, ce n'est pas la meilleure solution de suspendre ces médias-là. La meilleure solution pour moi, c'est de renforcer les capacités de nos médias indépendants et leur permettre d'essayer de servir de contrepoids, de battre en brèche le discours des médias occidentaux dans nos pays au Sahel. Et c'est la meilleure façon de le faire. De la même manière aujourd'hui qu'on demande aux gens de traquer la fausse information, les médias classiques, et de la dénoncer à travers des émissions comme l'Infox, l'Intox. Et c'est de cette même manière, de mon point de vue, sans heurter à la confraternité entre journalistes, de montrer que ce que tel média occidental a dit, il a menti, ce n'est pas la vérité, voilà ce qui s'est passé. Et ça, les médias locaux peuvent faire ce travail-là. Et qui vivent avec la réalité, ils peuvent faire ce travail. Mais malheureusement, les autorités militaires, et qui ne sont pas trop regardants vis-à-vis de la liberté de la presse, ils ont préféré l'option facile de suspendre carrément ces médias. Alors que dans un monde où la géopolitique des médias aujourd'hui produit ses effets dans tous les sens, vous avez vu, même que ces médias sont suspendus, ils sont accessibles sur Internet. Et donc, c'est quoi le résultat ici? Le résultat, c'est que les mêmes intellectuels qui suivent ces médias à travers les bouquets comme CanalSat, ils les suivent aujourd'hui sur les bouquets Internet à partir de leur bureau, à partir de leur téléphone portable. Donc, c'est comme si rien n'est fait, puisque les correspondants locaux, ils continuent de traiter les informations au nom de ces pays du Sahel pour les envoyer à ces mêmes médias qui sont suspendus. Donc la suspension, elle est juste aujourd'hui, on peut voir pour moi, c'est symbolique. C'est symbolique, les médias ne perdent pas son audience dans les pays où il a été suspendu parce qu'il est accessible sur Internet. Donc la meilleure alternative pour moi, en tant qu'expert média, c'est de renforcer les capacités des médias et des journalistes de façon à ce qu'ils aient plus l'info, ils évitent que les médias étrangers puissent avoir l'influence sur nos populations. Donc, c'est des contrepoids, c'est des relais pour casser cette influence des médias étrangers dans nos pays. Voilà comment moi je perçois ça.
C'était Lamine Souleymane, journaliste indépendant nigérien pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation des médias et à l'information, il a fait le point sur la situation avec les médias en Afrique et plus particulièrement sur les médias étrangers qui opèrent sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet afin de suivre l'actualité internationale et africaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.